Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Nicolas Pétribot, mon invité du jour, est l'auteur de la série de bande dessinée « Il faut flinguer Ramirez », édité chez Glénat. Le premier tome sorti il y a 2 ans avait rencontré un succès aussi foudroyant qu'inattendu, près de 100 000 albums vendus. Et le second tome est sorti pour les fêtes, juste à temps pour décorer le sapin de Noël. La bande dessinée « Il faut flinguer Ramirez » rend hommage au cinéma de genre, avec des grosses poursuites, des voyous méchants, des femmes fatales, cinéma de genre révisité à la manière de Tarantino, même si notre auteur sait se démarquer des références cinématographiques quand il le faut. Avant de se lancer dans la bande dessinée, Nicolas Pétribot a travaillé dans l'audiovisuel, dans la post-production, dans les effets spéciaux et aussi pour l'industrie du jeu vidéo.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Nicolas Pétribot, comment ça va ? C'est la question C'est la question qu'on va poser ce week-end à tous les artistes pour voir comment ils ont vécu cette année après 9 mois de crise avec déconfinement, reconfinement, interdiction de rencontrer du monde. Bien sûr, on s'imagine qu'un auteur de bande dessinée comme vous n'a pas dû souffrir trop de cette situation, à moins que je me trompe, puisqu'on imagine les dessinateurs de bande dessinée confinés depuis toujours, seuls, en train de dessiner.
Ah, c'est ça, c'est un travail très solitaire. Et je dois dire que ouais, le confinement, moi j'ai pas vraiment vu la différence avec mon quotidien, si ce n'est qu'effectivement fallait remplir un papier pour sortir de chez soi. Moi ça tombait vraiment en plus dans une période où il fallait que je me concentre absolument pour finir les pages et préparer la sortie de l'album correctement. Donc j'ai un peu plus vu la différence sur le reconfinement, où là du coup j'avais terminé mon album. Et ma récompense, ça a été d'être très malade et
de ne pas rencontrer votre public.
Ouais, après ça, je vous avoue que j'étais quand même très très fatigué par la réalisation de l'album et on avait prévu avec l'éditeur que la rencontre se ferait plus tard de toute façon.
Et vos amis, ceux qui ont travaillé avec vous quand vous étiez dans l'industrie du jeu vidéo, ceux qui travaillent dans l'audiovisuel, puisque vous êtes aussi passé par l'audiovisuel avant de tout laisser tomber pour la bande dessinée, Nicolas Pétribot, ils en sont où aujourd'hui ?
Soit ils ont continué leur carrière. Après c'est aussi agréable des fois d'avoir des repères un peu fixes. Enfin moi je sais que par exemple notamment dans le jeu vidéo il y a des gens qui sont toujours en place dans les sociétés avec lesquelles j'ai travaillé. C'est plutôt agréable aussi de se donner des nouvelles comme ça. Mais moi j'ai toujours été un petit peu électron libre dans ma façon dans les projets que j'ai abordés. Mais j'ai quand même gardé tous ces contacts autour de moi.
Il faut flinguer Ramirez, c'est le titre donc de cette bande dessinée, cette série de bande dessinée, puisque là c'est le tome 2 qui est sorti. Dès le premier tome sorti il y a 2 ans, vous avez rencontré un succès populaire. Quel est votre parcours, Nicolas Pétribot ? Pourquoi vous avez laissé tomber une industrie aussi florissante que celle du jeu vidéo, ou même les effets spéciaux pour les films, pour les productions audiovisuelles, ou même pour les publicités, pour vous lancer dans la bande dessinée ?
Je crois que c'était tout simplement mes premières envies d'ado, je dirais. Ça remonte à l'adolescence, en fait. Quand je découvrais les mangas et tout ça, je m'étais dit que ce métier devait être absolument, ça devait être le meilleur métier, quoi, de pouvoir passer son temps à dessiner ou à raconter ses histoires. Et puis j'ai fait mes études d'art appliqué pour me diriger vers ça. J'ai fait beaucoup de dossiers, j'ai développé beaucoup de dossiers d'histoires différentes avec des collaborateurs différents. Et ça n'a jamais abouti. Comme c'était la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher. J'ai pris cette décision de pas m'obstiner en fait et d'expérimenter d'autres choses sur d'autres terrains. Donc on les a cités, la post-production, le jeu vidéo, l'édition, mais plutôt d'un point de vue coulisses, c'est-à-dire d'un point de vue éditeur. Enfin voilà, de toute façon tous ces métiers-là m'intéressaient, donc je m'y suis confronté. Et puis au bout d'un certain temps d'expérience dans ces domaines-là, bah, je me suis rappelé que mon envie de vouloir raconter mes propres histoires, donc je me suis lancé avec ce projet-là.
Et la complainte de vos collègues de la bande dessinée, c'est-à-dire très précaire, de plus en plus précaire, ne vous a pas fait peur, a priori, de vous lancer, de laisser tomber le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo pour le papier et le crayon, la bande dessinée, les comics?
En soi, c'est assez similaire, moi, dans mon quotidien. De toute façon, dans ma manière de gagner de l'argent ou de facturer, je passe par les mêmes canaux, les mêmes organismes, en fait. Donc, en restant dans le jeu vidéo, j'aurais eu les mêmes soucis que rencontrent les auteurs de bande dessinée avec leur retraite, etc. Parce que moi, j'ai toujours travaillé en tant qu'indépendant et non en tant que salarié.
Et pourquoi ce choix?
Mais bah justement, pour être libre. De travailler sur des productions que j'aimais. Quand on est salarié, on ne peut travailler que sur les productions d'une société ou d'un studio. Quand on est indépendant, on peut travailler sur plusieurs jeux, par exemple.
La différence fondamentale entre ce que vous avez fait pour l'audiovisuel ou pour le jeu vidéo et la bande dessinée, c'est que là, vous êtes au service de votre propre histoire, d'une histoire que vous avez imaginée vous-même.
Ouais, c'est ça. Et puis du coup, ben toutes les choses que j'ai appris au travers de ces différents métiers auxquels je me suis confronté, ben m'ont vraiment servi pour ce projet-là. En fait, j'ai tout mis au service à la fois, que ce soit du graphisme, de la vidéo, des petits montages de la narration, de la mise en scène, tout ça. En fait, tout est mélangé. Et du coup, je regrette pas d'avoir fait ce choix de pas attaquer tout de suite par de la bande dessinée. J'ai appris plein d'autres choses qui m'ont passionné et qui m'ont servi ensuite.
Il faut flinguer Ramirez. Donc l'histoire se passe aux États-Unis, à Falcon City, en Arizona, dans les années 80, avec beaucoup d'action, de poursuites, et un héros qui ressemble pas du tout à un héros, Jacques Ramirez, employé sourd-muet, qui vend des aspirateurs. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'originalité de la couverture du tome 2, de l'acte 2, comme vous dites, c'est que tout le monde est armé, hein, les femmes, les hommes, sauf lui, Ramirez, au milieu, qui lui tient son aspirateur comme on tiendrait une guitare.
Ouais, bah c'est ça. Alors là, vous parlez de la couverture du tome 2, effectivement, mais bah lui, il fait, lui, il a un destin qui était un peu tout tracé, celui d'une lignée. Donc ça, on le comprend au début de ce deuxième acte, mais il a décidé que il en ferait autrement. Et puis on le retrouve, ce qui a l'air d'être un job de couverture. Quand on est un gangster, c'est d'être dans un petit bureau, un peu personne va nous remarquer. Mais c'est un personnage très très, il est muet, mais il a plein de surprises à révéler.
Il n'a pas besoin d'armes, un tournevis et une pince lui suffisent pour faire des miracles. Mais alors cet employé modèle est peut-être un tueur qui met le cartel de la drogue, qui sont les autres méchants de cette bande dessinée, dans tous leurs états, d'où les courses-poursuites.
C'est ça. Bah c'était moi le point de départ a été de vouloir faire de créer quelque chose très référencé et qui rappelait un peu l'énergie qui se dégageait des films d'action qui sont aujourd'hui cultes, devenus cultes du cinéma, voilà, des années 80-90. Je cite souvent Le Flic de Beverly Hills ou L'Arme fatale Le Piège de cristal, qui sont vraiment des monuments dans le registre action. Donc voilà, moi je voulais recréer quelque chose dans cet univers-là, parce que moi ça m'a énormément marqué, c'était vraiment un très très bon divertissement que j'ai vu, revu.
Et leur rendre hommage à la manière de Tarantino, je sais que cette question est récurrente, à chaque fois quand vous parle de Ramirez, on vous sort effectivement Tarantino, mais cette comparaison elle est pertinente, parce que votre manière de revisiter ce cinéma de genre s'accompagne d'une certaine distanciation aussi. On est dans l'hommage, mais on est aussi décalé.
Bah tout à fait, il y avait un décalage, et ça c'était aussi on va dire une envie très très forte, c'était de pas faire un récit premier degré parce que ça c'est bon, on a l'habitude d'en voir, et souvent quand c'est un peu trop premier degré et trop musclé, enfin moi j'ai un peu le sentiment que c'est raté ou qu'on tape à côté. Et puis bon, faut aussi remettre que c'est un divertissement, et du coup moi l'humour, le côté décalé, c'était ma petite soupape pour pour que le lecteur comprenne bien que c'est un divertissement, c'est pas non plus pour trop se prendre la tête, quoi, c'est pour passer un bon moment. Et puis quand on referme le bouquin, on peut reprendre sa vie normale, quoi.
Le réveil culturel, Toufik Hakem sur France Culture.
Avec Nicolas Pétribaud ce matin pour Il faut flinguer Ramirez, déjà l'acte 2. Jacques Ramirez, donc le meilleur réparateur d'aspirateurs dans une entreprise très respectable de Falcon City en Arizona, on est dans les années 80. Il est l'employé modèle, même s'il est muet, mais peut-être que derrière cet employé modèle se cache un redoutable assassin. En tout cas, il y a le cartel mexicain qui est à ses trousses et le voilà embarqué avec deux femmes fatales, très armées, pour nous entraîner dans une drôle d'aventure où on est tout à la fois effectivement subjugué par ce personnage. Le héros est un anti-héros à part entière. On a vraiment l'impression que cette bande dessinée qui a eu un succès populaire au moins pour le tome 1 remet en question la définition d'un héros populaire. C'est quoi un héros populaire? Vous lui avez enlevé tout. Il ne sait pas utiliser les armes. Enfin, a priori, il ne sait pas utiliser les armes. Il est plutôt effacé, ce Ramirez.
Ben en fait, c'est exactement ce que j'avais envie de faire, c'est de casser l'image du héros qui est super fort et qui a plein d'armes sur lui. Je voulais aussi faire un récit d'action où il se passe ça. Mais je voulais pas que mon héros véhicule ça. Je voulais qu'il soit en dehors de ça. Et quelque part, moi, j'en ai fait un héros de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il est adoré par tous ses collègues parce qu'il répare, le mec il est super calme, il fait pas de bruit et il fait son boulot mieux que personne. Et puis dans sa vie perso, il est tout ce qu'il entreprend, il est number one. C'est une réplique de l'album. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Donc quelque part c'est une certaine forme de une personne comme ça, on aime bien, c'est très inspirant d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage.
Physiquement, il ressemble beaucoup plus à Groucho Marx qu'à Leonardo DiCaprio, par exemple.
C'est clair, mais justement, encore une fois, c'était pour casser le côté « belle gueule », entre guillemets, systématique des personnages principaux de ce genre de film. Moi, je voulais qu'il ait une petite tête amusante, quelqu'un qu'on peut que aimer. À qui lui arrivent les pires trucs pendant un week-end. Il avait prévu de faire un truc justement pendant son week-end, mais là il y a tous les ennuis qui lui tombent dessus.
Alors si on parle maintenant de la mise en scène de cette bande dessinée, hein, parce que votre séquençage est complètement original, la manière d'orchestrer les scènes font appel aussi bien au code du comics américain que du manga japonais. Vous vous êtes amusé en essayant plein de choses en réalité.
Je sais pas si c'est vraiment que j'ai essayé. Moi, je pense que j'ai beaucoup lu, des mangas quand j'étais ado. Ensuite, j'ai découvert la BD franco-belge et puis très tardivement, je me suis intéressé aux comics, mais plutôt sur le pan comics indépendant, les histoires originales et pas vraiment tout ce qui était super-héros, etc. Et du coup, j'ai découvert à trois temporalités différentes ces univers-là. Mais toujours le lien, et ce qui a fait aussi mon métier pendant plus de 10 ans, c'était le storyboard. Storyboard pour le cinéma, la publicité, etc. Donc les codes restent les mêmes. Et quand j'ai développé ce projet de bande dessinée, je me suis tout de suite mis d'accord avec l'éditeur que ma pagination allait être élevée parce que j'avais besoin de place pour, à des moments, faire des grandes doubles pages ou faire très peu de plans par page, et puis à d'autres moments être un peu plus dense. Voilà. Donc
Voilà.
c'était
Et, mais tout ça
volontaire de
d'une
ma part.
manière très éclatée, hein. Il y a du dessin dans le dessin, il y a des cases dans des planches, tout ça se perd, ça épouse la vitesse aussi de l'action que mènent le héros, et les personnages d'Il faut flinguer Ramirez.
Bah c'est ça. Et puis pour ce qui est de la temporalité de l'histoire, ça se passe sur 2, 3 jours. Il y a 3 volumes qui sont prévus, donc 2 sorties. Ça se passe sur 3 jours. Dans la mise en scène, c'est entrecoupé de flashbacks qui expliquent certaines choses aussi. Mais finalement, c'est assez court. Par exemple, le tome 2 se focalise que sur un moment d'une journée, je dirais une dizaine d'heures. Le tome 2, c'est la durée, ce qui se passe dans le temps, dans l'histoire. Et du coup, ben ouais, voilà, j'avais besoin de faire des pauses, j'avais besoin de faire des moments silencieux, des moments très bavards. Et je pense que voilà, j'ai un peu emprunté plein plein de codes aux franco-belges, aux mangas et aux comics. Et à la fin, je réfléchissais plus, en fait. Pour moi, ça devenait naturel. Je dessinais un peu les planches de manière très succincte, un peu comme on écrit un texte.
Et on a l'impression qu'Il faut flinguer Ramirez a été d'abord conçu pour le cinéma. Et comme le cinéma est une industrie très très chère, vous avez adapté le scénario à la bande dessinée.
C'est ça. Ben, moi, quand j'ai écrit l'histoire, j'avais pas vraiment d'idée de découpage. Je visualisais vraiment quelque chose d'un film de 2 heures. Et du coup, j'ai vraiment écrit l'entièreté du scénario de cette façon-là.
Mais en pensant au cinéma.
Ouais, voilà. Mais sauf que ben moi, j'ai réalisé des petites choses pour moi, mais je prétends pas du tout être un réalisateur professionnel avec tout ce que ça implique d'un point de vue humain, gérer des équipes, gérer des budgets. Tout ça, c'est des problématiques qui font partie du job de réalisateur. Et sur un projet comme ça, assez ambitieux, j'aurais jamais, enfin. Ouais, non, j'aurais jamais été démarcher des studios pour tout de suite. Enfin, et puis surtout, moi, j'avais pas de nom à ce niveau-là, quoi. Dans le milieu, j'existais pas vraiment, quoi.
Et pourtant, à la fin de l'aventure, il y a un générique, comme si c'était un film de cinéma, avec tous les gens qui vous ont aidé d'une manière technique. Vous-même, vous avez composé la musique pour faire la promotion de cette bande dessinée, des bandes annonces aussi, ça a été vraiment. Alors, bien sûr, on comprend cela parce que Il faut flinguer Ramirez est aussi un hommage au cinéma de genre, mais est-ce qu'il n'y avait pas chez vous, Nicolas Pétrimo, cette envie de partir de la bande dessinée, de prouver par la bande dessinée que vous pouviez faire un grand film d'aventure pour le cinéma.
Encore une fois, je sais pas si je serais capable de faire un film, parce que y a des problématiques auxquelles j'ai jamais vraiment été confronté et qui parfois dépassent en fait l'aspect humain. Moi, la bande dessinée, c'est quelque chose, voilà, ça je connais les codes, j'ai l'impression de les maîtriser. Et pour moi, c'était plus instantané d'aller vers ce média-là, en fait. Mais c'est compliqué, en fait, d'aller toquer aux portes des studios avec ça sous le bras. Même juste le scénario écrit, je suis pas sûr qu'il aurait intéressé. D'ailleurs, quand j'ai présenté le projet, il y a des éditeurs, ça les a pas spécialement branchés, en fait. Mais parce qu'il fallait se projeter un petit peu avec les planches et l'univers, etc. Donc quelque part, il faut apporter des images. Donc voilà. Pour moi, c'était plus immédiat de le faire en bande dessinée qu'un milieu comme le cinéma où finalement je maîtrise. Là, du coup, peu de choses.
Même si le cinéma vous fait appel.
Ah bah là, c'est différent.
Ah.
Si les gens ont compris que j'avais quelque chose à raconter, un peu sympa, etc., bah oui, je suis à l'écoute.
In a motel, two pals are smoking, working on their secret plan. The younger deals with cash, the older holds a gun. They built a bully empire, one based on slinging dope. Those who interfere will end at the end of rope. At killing people, he was the king, a random guy. He is a lion who'll never ever die. They came around to find the silent man. They drove all night to catch and bring him down. Here they come.
L'acte 3, le troisième et dernier tome de Il faut flinguer Ramirez est déjà prêt ou vous êtes en train de travailler pour qu'il soit prêt aux prochaines fêtes ou à la rentrée,
je sais pas. Non, je pense je vais vraiment prendre le temps pour finir la série très correctement. Là, j'ai vraiment besoin d'un petit peu de temps pour moi là pour les mois qui viennent parce que ça fait vraiment plusieurs années que je sacrifie beaucoup de choses et que je ne fais que travailler là-dessus. Donc là, j'ai besoin d'un petit peu de souffler, de reprendre un peu goût à, enfin, de m'intéresser aussi un peu à d'autres choses là, pour recharger les batteries. Puis ensuite, je vais attaquer le tome 3.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Il faut flinguer Ramirez, l'acte 2 est sorti, c'est toujours chez Glénat. On se retrouve lundi bien sûr. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Clara Galivelle. Bonne journée.